les communes, vous savez, quand vous levez le matin, il faut avoir l'agnac pour y aller, quoi. Et ça, c'est essentiel parce que les relations, c'est beaucoup de l'humain, beaucoup de relations pas simples. Et donc, il faut, si vous n'êtes pas à fond, c'est compliqué.
Comme le maire écolo de Sevran, en Seine-Saint-Denis, Stéphane Gatignon, qui a démissionné en mars dernier, ils se disent usés et se sentent même parfois inutiles. Pris à la gorge par le désengagement financier de l'État, les maires, M-A-I-R-E-S, sont de plus en plus nombreux à démissionner. Leurs missions sont de plus en plus complexes et pourtant, les maires restent les élus préférés des Français. Alors comment susciter des vocations? Quels moyens pour les communes? Quel statut pour les élus? Maire à maire, on en parle ce soir dans le téléphone sonne avec vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur Twitter Maudiez Telson.
Frédéric Mettezo, le téléphone sonne.
01 45 24 7000, bonsoir Jacqueline.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute sur France Inter.
Oui, c'est un témoignage sur deux points. Le premier, les problèmes posés aux maires des petites communes rurales.
Vous êtes vous-même maire, Jacqueline?
Oui, je suis maire en Savoie, oui. Donc, les problèmes posés aux maires des petites communes rurales par la disparition de la notion de service public en matière de téléphonie. Ma mairie et tout le hameau où elle est située ont été coupés de téléphone pendant 3 semaines en août pour 100 mètres de câbles aériens arrachés lors de travaux. Donc l'opérateur historique sous-traite tous les chantiers au coût le plus bas possible. Donc il faut multiplier et multiplier les démarches jour après jour pour avoir un résultat. C'est épuisant.
C'est la fracture numérique, on va dire, la Absolument. Fracture téléphonique. Oui. Deuxième problème, Jacqueline?
Deuxième problème, on est allé beaucoup trop loin dans la présence des loups sur les zones pastorales. Les éleveurs sont contraints de protéger leurs troupeaux avec des chiens, de plus en plus de chiens, qui d'ailleurs n'évitent pas les attaques, je peux en témoigner.
Alors c'est pas une émission sur le loup, mais on a bien compris vos remarques, Jacqueline. La maire d'une commune doit s'occuper d'énormément de choses. Certains maires disent « je suis parfois assistant ou assistante sociale ». Eh bien, pour prolonger votre témoignage, Jacqueline, nous recevons dans le téléphone sonne Philippe Rion. Bonsoir. Vous êtes maire démissionnaire de Castillon, c'est sur les hauteurs de Menton dans les Alpes-Maritimes. Et vous êtes en direct de France Bleu Azur, nos camarades niçois qu'on remercie pour assurer la liaison avec Paris. Avec nous en studio à Paris, André Léniel, bonsoir.
Bonsoir.
Maire socialiste d'Issoudun, premier vice-président de l'Association des maires de France. En face de vous, Luc Rouban, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po, spécialiste des politiques publiques, de la réforme de l'État et des institutions. Philippe Rion, vous venez d'entendre le témoignage de Jacqueline, qui est maire en Savoie. Elle dit, bah moi, je suis maire, j'ai des tas de problèmes à régler, le téléphone coupé ou les loups. On n'est pas responsable de la réintroduction du loup, mais c'est vers nous qu'on se tourne. Vous-même, vous avez démissionné, Philippe Rion, parce que vous étiez dépassé par l'ampleur de la tâche?
Alors oui, parce qu'en fait, il y a un effet ciseau qui se produit sur les maires, c'est que d'un côté, on leur coupe les vivres, notamment par tout ce qui est baisse de dotation, mais en même temps, on leur augmente leur charge de travail, puisque tout ce qui est normatif, lois et règlements, aujourd'hui, ça marche quand même à plein pot, et on nous en rajoute un petit peu tous les jours, sans compter que la loi NOTRe nous a coupé un petit peu, pas moins de nos moyens.
Il faut expliquer. Donc, la loi NOTRe, c'est la réforme de la carte administrative et politique de la France.
Voilà, alors en plus, alors c'est une loi qui est passée un peu inaperçue, trop inaperçue à mon goût, parce qu'en fin de compte, la population n'a pas été confrontée à cette loi. Il aurait été intéressant peut-être de savoir ce que les Français pensaient de cette loi. Nous, on s'est retrouvés un petit peu tout seuls devant des législateurs qui en ont fait un peu à leur tête. Et on se retrouve aujourd'hui avec moins de pouvoir. Et en fait, aujourd'hui,
moins de pouvoir, mais plus de missions.
Ah ben, complètement. Ce maire parlait du loup. Il se trouve que moi, j'ai pris avec d'autres maires un arrêté sur le loup. On s'est retrouvés face à l'État.
Face au préfet.
Eh oui, parce que c'est pas bon d'en parler.
Alors Philippe Rion, on va vous retrouver dans quelques instants en duplex de Nice. Je me tourne vers Luc Rouban, qui a donc un regard d'universitaire sur ces problématiques. Monsieur Rion vient de nous parler d'une baisse des moyens et en même temps d'une augmentation des tâches. Dans vos études, c'est ce que vous avez constaté ?
Oh oui, tout à fait. Sur le plan empirique, on voit bien que la plupart des maires, notamment dans les petites communes de moins de 500 habitants, donc des petites communes rurales ou des petites communes en périphérie d'agglomération, des communes de banlieue, se heurtent à des difficultés sociales croissantes, hein, des difficultés de précarisation, des difficultés d'appauvrissement de la population, avec moins de services publics au niveau national, dont ils sont apparemment responsables aux yeux des usagers et des habitants. Donc c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le contrôle sur les grandes politiques publiques en matière hospitalière ou en matière de sécurité sociale ou de sécurité tout court.
Mais c'est chez eux qu'on vient toquer.
Et c'est là qu'on se plaint.
André Léniel, maire d'Issoudun depuis 1977, premier vice-président de l'Association des maires de France. Ces témoignages, vous en avez entendu des dizaines. Selon l'agence France Presse, le nombre de maires ayant démissionné 4 ans après leur dernière élection, ce nombre de démissions a augmenté de 55%. Qu'est-ce qui se passe depuis 4 ans ?
Oh, il y a une vraie démoralisation, même de ceux qui ne démissionnent pas. C'est vrai que nous sommes sous de multiples contraintes. Il était évoqué l'effet de ciseau entre les moyens qui sont constamment en baisse depuis plus de 10 ans et d'autre part les responsabilités qui, elles, augmentent de manière exponentielle. Et j'ajouterais la légitime ambition de nos concitoyens qui veulent, même quand ils habitent la campagne, avoir les mêmes prestations que s'ils habitaient la ville. Et donc le maire est au milieu de ces problèmes avec souvent le sentiment d'une impossibilité de répondre. Et quand je dis le maire, c'est pas le maire tout seul, c'est le maire avec ses équipes. Le maire, il a un conseil municipal, il a des associations, il a le contact avec les citoyens. C'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de la commune, c'est cette proximité. Et aujourd'hui, nous avons à la fois un garrot financier qui nous étouffe, mais aussi un corset administratif.
On va évoquer les difficultés financières. On va retrouver Agnès au standard de France Inter, 01 45 24 7000. Mais je vous livre juste deux messages très courts envoyés par mail. Freddy, qui est maire d'une toute petite commune, il nous dit « On est seul, terriblement seul, confronté à toutes sortes de problèmes sans avoir forcément les outils pour les résoudre. » Et encore plus court, Gilles qui nous dit « J'ai la chance de ne pas être maire, mais seulement adjoint au maire. » Bonsoir Agnès.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de l'Ain et on vous écoute.
Moi, je voulais aller dans le sens de ce qui a été dit dernièrement. C'est-à-dire que effectivement, pour moi, un maire, c'est pas un individu, c'est un chef d'équipe.
On va préciser que vous êtes vous-même maire de votre commune.
Je suis maire d'une commune de 1200 habitants et je suis vice-présidente de la communauté de communes en charge de la culture. Ce qui est assez rare. Il y a plus donc, beaucoup de vice-présidents en charge de la culture.
Alors, le maire chef d'équipe, disiez-vous ?
Ben, de mon point de vue, le maire, il est à la tête d'une équipe. Mmh. Et moi, j'ai la chance, au bout de 4 ans de mandat, d'avoir sur 15 conseillers municipaux, 14 qui sont présents parce qu'il y en a une qui a déménagé, et j'ai une équipe autour de moi et j'en suis fière et je pense que la force du maire, c'est son équipe.
Ça veut dire que vous n'êtes pas démoralisé, vous, Agnès ?
Ah, pas du tout, pas du tout.
Bon.
Et je trouve que c'est une mission qui est compliquée. Il y a des choses à gérer tous les jours et à des heures où on les a pas prévues. Mais il n'empêche que quand on est entouré d'une équipe, on faiblit pas. On travaille, on s'occupe. Alors moi, j'ai pas les problèmes des loups ou des ou ce genre de choses, mais je suis entourée.
On a entendu votre témoignage, Agnès. Philippe Rion, quand vous entendez cette consoeur ou ex-consoeur maire, vous qui avez démissionné de la mairie de Castillon, qu'est-ce que ça vous inspire ?
quelque part, je l'envie, mais voilà, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, les équipes municipales sont très difficiles à tenir parce que quand vous êtes élu, vous emmenez une équipe avec vous, effectivement, et quand cette équipe, au bout de quelques mois, s'aperçoit que bah, là, on va pas pouvoir faire ça, et là, on va pas non plus pouvoir faire ça, et puis par contre, bah, il faut faire ça alors que c'était pas prévu. L'équipe, eh bien, au bout d'un moment, elle ne comprend pas forcément. Le maire reste quand même quelqu'un de relativement seul, quelque part, face à certaines responsabilités, et notamment vis-à-vis de l'État. Hein. Ce qui fait qu'en fait, vos équipes municipales, elles n'ont pas toujours la possibilité d'apprécier à leur juste valeur, des fois, les décisions ou les chemins sur lesquels vous voulez les emmener. Et souvent, les équipes, et ce serait intéressant de savoir un peu comment ça se passe dans toutes les communes de France, mais les équipes souffrent aussi beaucoup. Et donc, forcément, c'est des fois difficile à tenir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé.
Oui. André Léniel, premier vice-président de l'Association des maires de France, on a évoqué la question des moyens financiers, on va y revenir, et la question, par l'intermédiaire d'Agnès, des intercommunalités, c'est douloureusement vécu, ces rapprochements de communes par les maires. Parfois on pourrait se dire mais c'est mieux, ils mettent leurs forces en commun, ils peuvent mutualiser les dépenses, ils peuvent financer à plusieurs des équipements qu'ils n'auraient pas financés tout seuls. C'est une belle vue de l'esprit technocratique et jacobine.
Il y a un peu de ça, mais en même temps c'est vrai que c'est un formidable outil, l'intercommunalité. Moi j'ai été un des premiers à présider une intercommunalité il y a plus de 20 ans et c'est un très bel outil, à condition qu'on en fasse un outil au service des communes et non pas l'outil de la destruction des communes. Je m'explique. Aujourd'hui, l'État a tendance à vouloir donner l'essentiel des compétences à l'intercommunalité de façon, en quelque sorte, à assécher les communes.
Et quand maires siègent dans ces intercommunalités. Oui, mais c'est pas au détriment d'autres élus, au bénéfice d'autres élus.
Si, parce que c'est au détriment de tous les conseillers municipaux. Quand vous avez une intercommunalité de 60 communes, ça représente 1200, 1500, 1800 élus municipaux. Et vous en avez souvent un seul par commune qui siège. Ce qui veut dire que vous avez des centaines d'élus communaux qui aujourd'hui ont un sentiment de dépossession, qui ont le sentiment qu'ils ne sont plus que des faire-valoir, ou alors de corvée lorsqu'il s'agit d'aller dans les hameaux pour réparer la tuyauterie.
Luc Rouban, est-ce qu'on peut dresser un bilan de ces intercommunalités, du développement des intercommunalités? C'est bon, c'est moins bon pour les communes? C'est difficile d'avoir un jugement noir et blanc, mais tout de même.
Oui, c'est difficile d'avoir un jugement global parce que, si vous voulez, dans le contexte local, vous avez vraiment des différences importantes en fonction du nombre d'habitants, de la taille de la commune. Donc, quand on parle d'une ville moyenne, c'est pas un petit village, une petite commune de 500 habitants. Donc, si vous voulez, l'intercommunalité, elle peut être source, effectivement, de moyens supplémentaires pour, disons, un certain nombre de communes qui ont aussi les moyens de gérer leur espace, leur territoire. Mais pour beaucoup de petites communes, l'intercommunalité a été subie comme une contrainte. Donc, progressivement, on est arrivé, et c'est ça le problème aussi, c'est qu'on a une évolution au sein de la décentralisation, c'est qu'au début, on avait une intercommunalité qui était une intercommunalité de gestion, c'est-à-dire qu'effectivement, on mettait en commun pour des économies d'échelle un certain nombre de moyens, pour l'assainissement, l'eau, etc. Et progressivement, c'est devenu une intercommunalité de projet, mais ça remonte déjà aux années 90. Une intercommunalité de projet, c'est-à-dire que finalement, c'est l'intercommunalité, l'interco, qui va décider de schémas d'aménagement, d'organisation du territoire, d'animation économique, etc. Et c'est vrai que la législation pousse de plus en plus vers une hiérarchisation des collectivités locales.
Agnès, vous êtes restée en ligne de l'Ain, oui. Maire d'une commune de 1200 habitants, vous souhaitiez réagir?
Oui, alors moi je suis aussi vice-présidente à la communauté de communes. Je suis pas d'accord quand on dit que l'intercommunalité dépossède les communes de leur pouvoir. Effectivement, il y a des choses qu'on peut pas faire au niveau d'une commune de 1200 habitants, et c'est évidemment à l'échelle de l'intercommunalité qu'on peut les réaliser. Sinon, on ne sait pas faire. Et donc, je pense que l'intérêt des élus communaux, c'est de s'investir dans l'intercommunalité. Mais il faut arrêter, et c'est un discours qu'on entend quand même régulièrement,
de dire que l'intercommunalité dépossède les communes. C'est beaucoup le discours des maires ruraux de France, par exemple.
Très bien, Agnès. On vous remercie de ce témoignage. André Léniel va prolonger la discussion.
Oui, très simplement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où ça se passe très bien, heureusement. Mais il y a une dépossession, ne serait-ce que parce qu'il y a des transferts obligatoires de compétences des communes vers les intercommunalités, sans qu'ils aient leur mot à dire.
Sur l'assainissement de l'eau, par exemple
l'eau et l'assainissement, qui aujourd'hui devraient être dévolus obligatoirement aux intercos. Il y a des endroits où c'est parfaitement légitime et même du bon sens. Il y a d'autres endroits où ça n'a strictement aucun sens. Les nappes phréatiques, elles n'épousent pas les limites des intercommunalités. C'est évident. Mais surtout, je crois qu'on est passé d'une intercommunalité choisie, c'est-à-dire où on se choisissait entre partenaires, où on choisissait nos compétences, à une intercommunalité forcée. C'est la loi NOTRe, malheureusement, qui a mis un point d'exclamation derrière ça.
Il est 19h33 et vous écoutez Le Téléphone Sonne.
France Inter, Le Téléphone Sonne.
01 45 24 7000. Bonsoir David.
Bonsoir, merci pour vos émissions.
Avec plaisir, on vous écoute David.
Alors je suis cadre de la fonction publique territoriale depuis une quinzaine d'années. Et pour moi, la question que vous posez ce soir, elle renvoie entre autres aussi à la question peut-être des indemnités des maires des petites communes. Pour moi, schématiquement, il y a deux types de maires en France, très schématiquement. Le premier, c'est le maire de 1000 habitants. On en a entendu quelques-uns. 1000 habitants, un maire de 1000 habitants, il a une dizaine d'employés municipaux. C'est-à-dire, ce sont des gens qui font tout. Employés municipaux dans une commune de 1000 habitants, on passe son temps à faire des urgences au mieux. C'est quelqu'un qui aura peu de possibilités de cumuler les mandats, parce qu'il n'a pas un bassin de population suffisant. Il a peu de possibilités de cumuler les mandats, donc les pouvoirs pour résoudre, pour avoir prise sur les problèmes. Et donc les indemnités.
Donc ça, c'est le maire de 1000 habitants.
Oui. Et c'est quelqu'un qui a un investissement très fort. Il y a eu déjà des témoignages avant mon appel. Et ce maire de 1000 habitants, il reçoit une indemnité, en gros, de 1000 euros. C'est-à-dire, c'est pas suffisant pour... déjà, c'est pas suffisant pour un boulot de 8 heures à 23 heures, souvent. Mais c'est pas suffisant, par exemple, pour qu'il mette entre parenthèses, de façon sérieuse, sa vie professionnelle. Donc en plus, il y a ces difficultés-là. Et en face de ça, l'autre profil est beaucoup plus court, c'est celui du maire de 10 000 habitants
et plus. Oui.
Qui, 10 000 habitants, c'est 200 employés, c'est-à-dire on a des gens spécialisés pour aider le maire à faire face à la complexification permanente du territoire et à l'exigence aussi continuelle des usagers. C'est quelqu'un qui va avoir un bassin de population suffisant pour aller chercher... d'autres mandats, donc d'autres pouvoirs et d'autres indemnités, et finalement, qu'on va indemniser mieux pour qu'ils se dispersent.
Alors, merci beaucoup David pour cet exposé. Réponse de Luc Rouban, avant tout, chercheur au CEVIPOF de Sciences Po.
Oui, c'est vrai que les indemnités des maires des petites communes, notamment des petites communes rurales, qui sont celles quand même les plus vulnérables, et ce sont celles où l'on trouve le plus grand nombre de démissions récentes. Donc il faut quand même focaliser un petit peu le débat peut-être sur cette question. Les indemnités sont très basses. En dessous de 500 habitants, c'est 658 euros par mois. Donc c'est rien du tout. Et la moitié des maires touchent une indemnité. C'est pas une rémunération, c'est une indemnité. Donc c'est bien conçu comme devant venir en surplus, généralement, d'une retraite. La moitié des maires touchent moins de 2128 euros exactement, brut, par mois. Oui, donc c'est pas grand-chose.
Oui, je vous interromps, Luc Rouban, parce que le Figaro a dressé le portrait robot du maire démissionnaire. Dans 80% des cas, c'est un homme. L'âge moyen est de 62 ans. Les prénoms les plus portés sont Michel, Alain et Daniel. C'est-à-dire que souvent, ce sont des retraités parce que effectivement, on ne peut pas lâcher son emploi et vivre avec 658 euros par mois.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est tout le problème du renouvellement du personnel politique au niveau
local.
Je dirais local, mais du vrai local. Parce qu'effectivement, dans les grandes villes, on n'est pas du tout dans la même situation. On est dans une situation où on a effectivement des services considérables, on a une aide juridique, on peut s'adresser aussi à des cabinets d'avocats extérieurs. Bon, on est dans un univers totalement différent. Mais effectivement, la question se pose de savoir si on va pouvoir continuer très longtemps à avoir des maires dans des petites communes rurales qui sont essentiellement des retraités, généralement souvent d'anciens fonctionnaires, anciens gendarmes, anciens professeurs des écoles, etc., qui connaissent un peu le droit, mais qui sont de plus en plus dépassés par la complexité juridique qui est assez effrayante.
Philippe Rion, maire démissionnaire de Castillon, en direct de France Bleu Azur, souhaite réagir.
Oui, justement, au niveau juridique et au niveau de la complexité de l'administration, c'est là où les petites communes, celles de moins de 500 habitants, pêchent le plus parce que nos infrastructures ne permettent pas justement de pouvoir être sur tous les feux. Moi, pour ma commune de 400 habitants, j'avais un gros cabinet d'avocats, performant certes, mais bon, ça a un coût, c'est parce que faut aussi savoir que les petites communes sont bien souvent victimes de leur taille, dans le sens où elles sont des fois des proies faciles pour des gens, des promoteurs indélicats, enfin pour ce genre de choses. Donc on est obligé au quotidien de se battre. Et on n'en a pas les possibilités, quoi. C'est vraiment très difficile. Mmh. Donc moi, je me suis retrouvé en justice parce qu'aujourd'hui, c'est une mode, hein. On emmène un maire et une commune en justice assez facilement. Donc on se retrouve dans des situations des fois très complexes.
André Léniel.
Oui, non, c'est vrai qu'il y a une judiciarisation, qu'il y a une beaucoup plus grande complexité, qu'il y a une masse de responsabilités. Je veux dire, c'est aussi afférent aux normes. Ils nous sortent, et quand je dis ils, c'est tous les technocrates de la planète.
C'est pas un peu facile ?
Non, non. Mais il y a des normes qui sont indispensables. Attendez, je ne suis pas en train de dire, contrairement à un président de la République que j'ai entendu un jour au Congrès des maires de France, c'était Nicolas Sarkozy, dire à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus aucune norme. Applaudissement général, moi j'étais terrifié. Parce qu'on a besoin de normes de sécurité, d'un certain nombre de choses. Donc il ne s'agit pas de dire toutes les normes. Mais c'est vrai qu'il y a une multiplication aujourd'hui des normes. On a fait le calcul sur les 10 dernières années. Les normes ont coûté aux collectivités territoriales plus d'1,2 milliard par an. Par an. C'est considérable. Et derrière chaque norme, il y a une responsabilité juridique. Parce que, prenez les normes environnementales, elles sont souvent totalement indispensables. Mais on laisse le maire en face ces normes, souvent en incapacité soit de toutes les comprendre, soit de les mettre en œuvre. Et c'est lui qui sera traduit éventuellement devant les tribunaux si une norme n'est pas respectée dans sa commune.
Retour au standard du téléphone sonne 01 45 24 7000. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu sur l'antenne.
Eh bien, je crois que comme beaucoup de personnes, je crois qu'on a compris la difficulté d'être maire et on peut les saluer tous, quelles que soient leurs opinions politiques. Ceci dit, je voudrais quand même les replacer dans le contexte de leur représentativité démocratique et républicaine. Je crois que le rôle d'un maire, des adjoints et de tout conseil municipal en premier lieu, c'est de faire des choix. Lorsqu'on vote pour un maire, bien sûr, on vote pour sa personnalité, mais aussi pour son programme. Mais aussi, on ne peut pas être forcément d'accord avec tous les éléments du programme. Et je pense qu'il serait peut-être bon aussi de penser à introduire une dose de consultation citoyenne légale au sein des communes. Et d'autre part, je pense qu'il y a des maires qui font leur boulot, qui sont courageux. Je pense à ces maires qui se mettent contre le compteur Linky. Bravo à eux. Mais je vois par exemple ce qui se passe dans mon département, la Meuse. Le département voisin, la Haute-Marne, où, selon moi, je trouve que quand on est un maire et un conseiller municipal, on doit prendre des décisions. Mais avant tout, le premier rôle d'un citoyen élu, c'est de faire des choix. Et quand on fait des choix, on s'informe. Or, la Meuse et la Haute-Marne, vous savez, sont pressentis pour recevoir le projet d'enfouissement CIGEO.
Et oui,
ce que
j'ai vu
depuis 25 ans, voilà, à Bure. Et ce que l'on voit depuis 25 ans, c'est que, eh bien, les conseillers municipaux reçoivent facilement les représentants de l'Andra, mais très peu ont accepté de recevoir les points de vue des opposants, ce qui est totalement inadmissible sur le plan de la déontologie démocratique.
Message entendu, Patrice, merci de cette remarque. Un besoin de consultation locale, d'associer les citoyens à la prise de décision. Philippe Rion, maire, oui. Ex-maire de Castillon.
Est-ce que j'ai un témoignage.
Oui, je vous en prie.
J'ai un témoignage là-dessus. En 2009, alors que je venais d'être donc élu depuis une année, il s'est présenté à moi le fait qu'on voulait que notre commune rentre dans la commune urbaine de Nice. Il s'est trouvé que j'étais, avec une autre commune, le seul à faire un référendum décisionnel. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, j'étais la première commune à réaliser un référendum décisionnel. Hein. C'était une loi de 2003 qui n'était appliquée qu'en 2009. Eh bien, j'ai ramassé une volée de bois vert par l'État. C'est-à-dire que même un maire aujourd'hui, si justement il veut consulter sa population, eh bien, il n'est pas forcément le bienvenu. Et je me suis retrouvé, moi, dans une situation. Donc, je réponds à ce monsieur. Oui, les élus sont là aussi pour consulter les populations. Mais quand ils le font, c'est pas forcément bien vu. Mmh. Et de l'État, en l'occurrence.
Ouais. Luc Rouban, que permet la loi aujourd'hui? Et puis après, on posera la question à André Léniel de est-ce qu'on peut faire mieux? Mais qu'est-ce qui est possible? Est-ce qu'il existe des assemblées citoyennes, des agora, des conseils locaux?
Oui, bien sûr.
Qui sont autre chose qu'une sympathique réunion où on parle de l'état du quartier et puis aucune décision n'est prise?
Oui, bien sûr. Il existe tout un dispositif juridique permettant d'organiser finalement la démocratie participative avec soit des jurys citoyens, soit des comités locaux. Mais il faut bien reconnaître que cette démocratie participative qui est très demandée en France, très demandée au niveau local, qui est très illustrative d'une certaine horizontalité du pouvoir, à la fois se heurte effectivement à la verticalité des finances publiques. Finances publiques qui sont de plus en plus verticales.
Qui reculent
et qui sont de plus en plus verticales avec une recentralisation financière. Il faut quand même pas oublier non plus que cette démocratie participative, alors, d'une part, fonctionne bien, on l'a vu notamment à Paris, dans un certain nombre de grandes villes, pour des projets très précis, hein, par exemple de financement très précis, très localisé. Et il faut pas oublier non plus que, juridiquement, ce sont des décisions qui n'ont aucune valeur normative. C'est une simple consultation, avec tout le problème de représentativité des personnes qui vont participer, justement.
Participatif, consultatif ou décisionnel, c'est pas voilà. La même chose. André Léniel, est-ce qu'on peut faire mieux dans la consultation des citoyens, dans l'aide à la prise de décision?
On peut
comme
toujours
le souhaiterait
mieux.
Patrice.
On peut toujours faire mieux, dire le contraire serait absurde, bien évidemment. Après,
faire vraiment alors?
Non, mais ça dépend aussi de la taille des communes. Il est évident que la consultation des citoyens, quand vous êtes dans une commune de 500 habitants, permettez-moi de vous dire qu'elle est quotidienne. Parce que dès que vous touchez une bordure de trottoir, vous êtes sûr que vous avez immédiatement les réactions des citoyens.
C'est même Ce serait peut-être mieux de les entendre avant qu'on touche au trottoir.
Oui, mais enfin, quand il s'agit de réparer... Bon, bref, on ne va pas entrer dans la technique. C'est parfois aussi des réponses techniques qu'il faut apporter à des urgences. Mais bon, l'image est celle-ci. Mais c'est vrai même dans des villes plus importantes. Moi, je suis maire d'une ville de 13 000 habitants. Je vous assure...
Soudain. Redisons-le.
Absolument, mais oui, mais je le revendique. Mais, je veux dire, c'est clair que dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on annonce un projet, il y a immédiatement des réactions. Et qu'il y a toute une série de structures à travers lesquelles on peut en discuter. Il y a les commissions extra-municipales qui permettent d'associer et la commission municipale compétente et des citoyens qui sont à l'extérieur. Il y a les conseils de développement qui existent au niveau intercommunal, par exemple. Il y a les commissions de citoyens dans les quartiers qui se mettent en place. Et quand vous êtes en quartier politique de la ville, vous êtes obligé d'avoir un conseil citoyen, ce qui est une bonne chose. Donc il y a toute une série de procédures. Après, il y a deux conditions. C'est que les élus jouent le jeu et les citoyens aussi. Moi, je me souviens avoir un jour présenté une rénovation d'un quartier important. On avait informé par boîte à lettres tous les citoyens. On s'est retrouvé avec les architectes, les paysagistes, etc. Et 4 citoyens à la réunion. Mmh. Bien. Donc, je veux dire, il faut que tout le monde joue le jeu. C'est pas seulement les élus. C'est aussi les citoyens. Or, les citoyens, ils sont passionnés parce qu'ils les touchent directement. Et parfois un peu moins, pas tous, heureusement, mais parfois un peu moins quand ce sont des projets plus globaux.
Retour au standard, 01 45 24 7000. Michel est en ligne depuis le Pas-de-Calais. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bravo pour votre émission, c'est bien.
Merci.
Qui me tient à cœur et qui est enfin abordé. Bon. Moi, je n'entends pas être très original, hein, parce que on a le même problème que les autres communes, à savoir les problèmes financiers. Hein. Je suis maire d'une commune de moins de 2000 habitants, et on a les mêmes problèmes, à savoir les soucis de gestion, la baisse des moyens financiers, la baisse des moyens humains, beaucoup de difficultés à faire face avec une cascade de normes de toutes sortes, et une intercommunalité qui est un peu chronophage, et, ce qui fait que c'est toujours les mêmes qui sont un peu sur la brèche et qui en ont un peu marre.
Merci beaucoup, Michel. André Léniel, la baisse des moyens accordés aux communes, ça a été chiffré, ce qu'on appelle dans un sigle un peu barbare la DGF, la dotation globale de fonctionnement. C'est de l'argent qui est donné aux communes par l'État. C'est en baisse depuis plusieurs années, légère hausse ces derniers mois.
Alors vraiment très ridicule, de quelques dizaines de millions sur plusieurs milliards. Donc honnêtement, c'était uniquement optique. Et il faut savoir que 21 000 communes sur 35 000 ont vu leur dotation globale de fonctionnement baisser cette année. Donc contrairement aux engagements présidentiels qui n'ont absolument pas été tenus dans ce domaine, puisqu'au Congrès des maires de France, il avait annoncé qu'aucune DGF ne baisserait.
Donc c'est un vrai problème pour vous, c'est le nerf de la guerre ?
Ah ben attendez, comment voulez-vous répondre aux attentes des concitoyens si vous n'avez pas l'argent qui permet de le faire ? En permanence, on me demande beaucoup plus d'investissements que je ne suis capable chaque année de faire et qui sont des investissements parfaitement légitimes. Tout le monde voudrait que sa rue, parce qu'elle est un peu endommagée, soit refaite. Quand vous faites les additions, c'est évidemment totalement impossible. On voudrait toujours des équipements plus performants, que ce soit dans le domaine du sport, de la culture. Je rappelle au passage que 80% des équipements culturels, c'est les collectivités territoriales. Que 75% des équipements sportifs, c'est les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'argent venant du ministère de la Jeunesse et des Sports, ou quasiment plus. Et pareil en ce qui concerne le ministère de la Culture. Donc l'essentiel de la vie, de l'activité, c'est au niveau de la commune qu'elle se passe. Mais aujourd'hui, les moyens étant en baisse constante, le plus mauvais coup qui a été porté, c'était la suppression de la taxe professionnelle par Nicolas Sarkozy. C'était la première ressource et la plus évolutive pour les collectivités territoriales. Ça a été un véritable étouffement.
Philippe Rion.
Oui, je voudrais intervenir au niveau de la taxe d'habitation. Parce que
qui va disparaître progressivement à partir de l'automne.
Voilà, et il va y avoir un effet pervers. C'est-à-dire que le citoyen qui habitait dans sa commune payait une taxe et il se sentait quelque part un peu lié à la commune par cette taxe. Alors peut-être que cette taxe, il faut la revoir et l'aménager différemment parce qu'en fin de compte, les bases étant de 1971, on peut penser quand même qu'il fallait faire quelque chose, ça c'est un fait. Mais on va la supprimer purement et simplement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va déconnecter le citoyen de sa commune. Donc bientôt, on va se retrouver avec des citoyens qui vont déambuler dans la rue du village ou de la commune et dire « bah voilà, monsieur le maire, il nous faudrait un banc ». Forcément, ils vont être complètement détachés et désengagés financièrement de l'activité même de la commune. Je pense qu'on va se retrouver là face à quelque chose qui va mettre encore une charge supplémentaire aux communes.
Philippe Rion, vous étiez, quand vous étiez maire de Castillon, à la tête d'un village de 380 habitants.
Oui.
Cette DGF, cette dotation globale de fonctionnement qui vous est versée par l'État, est-ce qu'elle avait diminué chez vous ?
Ah oui, moi, elle a chuté de plus de 50% depuis 2013. Donc, j'avais un tout petit peu plus de 49 000 euros en 2013. Je suis tombé en dessous de à 24 ou 23 000 euros, je crois, exactement.
Et comment avez-vous agi ? C'est une perte sèche ou, par exemple, l'intercommunalité a pris le relais sur...
Non, ça c'est une perte sèche.
Oui. André Léniel abonde, vous ne pouvez pas le voir, mais il abonde.
Parce que
ça a baissé aussi pour les intercommunalités, ça n'a pas baissé que pour les communes.
Bien sûr, ça a baissé. C'est pour tout le monde, même pour les conseils départementaux, enfin pour tout le monde, c'est une véritable catastrophe. Donc en fait, les petites communes sont particulièrement sensibles. Moi, le moindre euro qui me manquait, c'était dramatique. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où ça a été très compliqué. Mais c'est l'ensemble même des dotations qu'il y a, parce que on parle de la DGF, mais il y a toutes les autres. Alors si on regroupe toutes les dotations, j'ai dû perdre en tout 30%. Mais c'est colossal. Et donc, il arrive un moment, on ne sait plus faire. Donc, on prend des fois des décisions qui ne sont pas forcément bien comprises par la population.
Par exemple.
Moi, j'en ai pris une, alors qui est un peu emblématique, mais qui m'a quand même permis de ne pas de limiter mon augmentation d'impôts, parce que je rappelle quand même que moi, j'ai été obligé d'augmenter mes impôts de 20%. Et alors que ce que j'ai fait, c'est que j'ai été jusqu'à supprimer les commémorations, ce qui a été très mal vu, forcément. Mais j'ai gagné 4% quand même.
C'était des belles commémorations, oui.
Ben non, c'est pas des belles commémorations. Vous savez, c'est moi, c'est 1%, c'était 1000 euros. Donc j'avais une ligne budgétaire sur les, tout ce qui était fêtes et cérémonies de 4000 euros. Et ben j'ai gagné 4%. C'est 4% de moins que j'ai infligé à mes concitoyens. Voilà, c'est ouais. mais j'économisais sur l'essence, j'économisais sur tout.
Luc Rouban, vous avez dans vos travaux pu chiffrer, quantifier, évaluer, peut-être contrebalancer ce discours des maires, ou vous validez les sommes et le mouvement général?
Oh non, je valide tout à fait le mouvement général, mais il faut comprendre aussi qu'on est entré dans une nouvelle période de recentralisation financière où l'un des objectifs, il faut pas l'oublier, c'est de réduire les déficits, c'est de réduire les endettements publics. Et comme l'État, notamment en matière de fonction publique, est arrivé pratiquement à l'os en réduisant ses effectifs sur les 10 ou 15 dernières années, c'est du côté de la fonction publique territoriale qu'on doit se retourner pour faire des économies budgétaires. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, l'État, le gouvernement, n'a absolument aucun moyen de gestion, de contrôle direct sur la fonction publique territoriale. Donc le seul moyen... Eh bien, c'est de contraindre le local, d'une manière ou d'une autre,
on coupe à la source, quoi.
À faire des économies. Voilà. Et si les économies ne sont pas faites, il y aura moins de dotations, de subventions, de fonctionnement. Et on entre dans une logique, si vous voulez, pseudo-contractuelle, plutôt de torsion de bras, qu'on avait pu remarquer, notamment au Royaume-Uni, il y a une vingtaine d'années.
André Léniel, pour l'Association des maires de France.
Il est clair que les communes sont de plus en plus, pour l'État, une variable d'ajustement financier. Ce sont les collectivités territoriales dans leur ensemble, pas seulement les communes, c'est vrai des départements et des régions également, qui font les frais des principaux efforts budgétaires, pendant que l'État, lui, continue à augmenter ses propres dépenses. Et d'ailleurs, la Cour des comptes, dans son dernier rapport, a dit qu'il faudrait probablement revoir la distribution de l'effort entre l'État et les collectivités territoriales, ce qui, dans le langage de la Cour des comptes, est un signal d'alarme très fort. Mais je veux dire, puisqu'on arrive un peu au terme de cette émission...
Il nous reste 6 minutes.
Voilà. Je voudrais dire, derrière la complainte des maires, la réalité, c'est la commune qui est en jeu. C'est la commune qui est en cause. C'est la démocratie locale. C'est ce pilier de la République, de la proximité, du vivre ensemble qu'est la commune, qui sont en danger. Bien entendu, ce sont les maires qui en sont les symboles, les porte-drapeaux, et qui donc en prennent les premiers coups. Mais derrière, c'est véritablement une volonté de recentralisation à laquelle nous sommes confrontés. Et puis, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le sentiment de mépris que ressentent beaucoup d'élus locaux de la part de l'État. Il y a une morgue des grands corps. Les collectivités territoriales...
C'est l'ancien ministre qui dit ça.
Absolument. Et qui tient à ce qu'il y ait un État. Mais pas un État qui soit dans la morgue et dans le mépris des corps intermédiaires. Or, aujourd'hui, il est clair que ce président de la République et ce gouvernement sont dans le refus du véritable dialogue. C'est vrai pour les syndicats, c'est vrai pour les collectivités territoriales. Et ce n'est pas seulement un homme de gauche qui le dit. Je lisais une interview aujourd'hui de la présidente de la région Île-de-France qui disait
Valérie Pécresse,
exactement
oui.
la
bon,
même chose.
La baisse des dotations avait commencé sous François Hollande.
Elle a commencé bien avant.
Et sous François Baroin, qui est président de l'Association
Absolument,
des maires de France.
Absolument. Et que j'ai combattu.
Ministre du budget.
Mais j'ai un immense avantage sur tous. C'est que je m'y suis opposé, quelle que soit la majorité politique qui est en place. Même quand c'était mes amis, j'ai toujours dit que j'étais en désaccord, parce que les collectivités territoriales, et les communes en particulier, doivent être des leviers du progrès économique dans notre pays, et non pas des charges.
Avant de prendre un dernier auditeur, dernière intervention également de Philippe Rion, maire de Castillon, ancien maire de Castillon dans les Alpes-Maritimes.
Oui, il y a un point qu'il faut absolument soulever, c'est que la commune, c'est le bien commun, c'est le bien de la population, c'est le bien de la nation, c'est le patrimoine des Français, et on oublie ça. C'est une notion qu'on a complètement passée sous silence. Moi, j'appelle les Français justement à défendre leur bien. C'est pas le maire, c'est pas Monsieur Machin ou Monsieur Truc qu'il faut défendre. Non, c'est ce patrimoine que l'on a. C'est les 36 000 communes préférées des Français qu'il faut défendre.
La commune, c'est le commun.
Où on est aujourd'hui. Oui, c'est à nous. C'est à vous, c'est à moi, c'est à tout le monde. Ils ne doivent pas mettre les mains dans le pot de confiture.
Dernier témoignage au 01 45 24 7000. Bonsoir Laurent, vous nous appelez de Seine-Maritime, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Je veux porter le témoignage en toute fin de cette émission d'un maire heureux, un maire d'une ville de 10 000 habitants, Côtebec-les-Elbeuf, juste à côté de Rouen. Alors, je ne méconnais pas les difficultés dont font part mes collègues et vos invités, mais il ne faut pas tout noircir. D'abord, personne ne nous oblige à être maire. Ensuite, il y a eu énormément de marges financières disponibles dans les collectivités. On a même pu, à une certaine époque, trouver qu'on dépensait beaucoup trop dans les collectivités, et il y a encore des marges. Donc il y a beaucoup d'économies à faire sur le fonctionnement. Moi, c'est ce que je fais dans ma commune de Côtebec-les-Elbeuf. Nous économisons sur le fonctionnement.
Sur quoi, par exemple, Laurent?
Sur beaucoup de cérémonies, de communications. Quand je suis arrivé maire il y a 4 ans, il y avait 7 publications municipales différentes. J'ai simplifié, il n'y en a plus qu'une. On se sert énormément des réseaux sociaux.
C'est peanuts, semble nous dire André Léniel.
Non, c'est pas peanuts, cher André Léniel.
Oui, bien sûr que oui.
Mais non, ça fait de l'argent, cher André.
Non.
Mais si.
Ça, et monsieur Rion rigole également.
Ça, c'est de la communication.
La masse salariale, on essaie de rationaliser.
Oui, on y est contraint.
On essaie de rationaliser et on se sert beaucoup des réseaux sociaux pour communiquer avec nos habitants. On parlait tout à l'heure de la démocratie participative. Eh bien nous, quand on touche une rue à Côtebec-les-Elbeuf, on va voir les habitants dans la rue, on leur présente les travaux avant et contrairement à ce qu'on pense, d'aller présenter les travaux, on s'appuie beaucoup sur notre intercommunalité. On a une métropole très puissante, la métropole de Rouen, qui nous aide énormément financièrement. Et quand on va présenter des travaux et qu'on explique aux gens ce que ça coûte, souvent, ils nous demandent d'en faire moins. Quand on fait un aménagement dans une rue, quand on explique que tel stop, tel feu, tel aménagement de sécurité qui est voulu mais pas forcément obligatoire ou en discussion. Chaque fois qu'on explique que ça coûte un peu trop d'argent, les riverains, les concitoyens raisonnables décident d'en faire un peu moins.
Merci de ce témoignage,
voilà,
Laurent.
Ce que je voulais témoigner, donc il y a des maires heureux. Alors évidemment, il y a une FETA, il y a 10 500 habitants, on est un peu plus puissant que des communes plus petites qui, je pense, ont parfois intérêt à se regrouper, mais il faut que ces regroupements se fassent sur la base du volontarisme des élus et des populations.
Merci beaucoup d'avoir appelé France Inter. On va pas lancer un débat entre maires, on va laisser le mot de la fin au juge de paix, à notre universitaire Luc Rouban, directeur de recherche à Sciences Po.
Tâche très difficile, mais je pense qu'effectivement je pense qu'un des propos les plus importants a été prononcé, à savoir la question du patrimoine et de la mémoire aussi, parce qu'il faut bien oublier, il faut pas oublier que la France a de très nombreuses communes, hein, contrairement à l'Allemagne ou à l'Italie ou à d'autres pays européens. Ces communes sont les anciennes paroisses d'Ancien Régime, mais elles recouvrent aussi tout un patrimoine architectural, historique, culturel. Donc c'est vrai que c'est le tissu vivant du local et c'est le tissu vivant du politique. C'est là où on a vraiment le politique au quotidien dans sa pratique interpersonnelle. Et c'est là que se forge la confiance politique. Or le problème, c'est que effectivement, la confiance politique, même vis-à-vis des maires, est en train de diminuer depuis quelque temps. Et c'est vraiment préoccupant parce qu'on va vers une forme de rationalisation du local, vers une forme de local de service.
Merci Luc Rouban, sociologue, directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po. Merci André Léniel, maire PS d'Issoudun, premier vice-président de l'Association des maires de France. Nous remercions également Philippe Rion, ancien maire de Castillon dans les Alpes-Maritimes, d'avoir été avec nous en duplex depuis Nice et depuis les locaux de France Bleu Azur, dont on salue l'équipe technique qui a assuré cette liaison. À la préparation du téléphone sonne ce soir, Caroline Baudry, Justine Bilret et Pierre de Certaines. Réalisation Céline Hilla avec à la technique Victoria Asper et Juliette Delpeyrou. Après les informations, affaires sensibles de Fabrice Drouel qui nous conduit en Antarctique.